Bonjour à tous. J'ai presque l'impression de me rendre dans un lieu climatisé, parce que comparé à la chaleur que dégage le rétroprojecteur, il fait presque frais ici, presque. J'aimerais commencer par vous raconter une petite histoire. Il y a quelques années, j'ai participé à l'encanoroman des épreuves sportives d'un concours de sapeurs-pompiers, concours que devait impérativement réussir tous ceux qui espéraient pouvoir un jour devenir pompiers professionnels. Et ce concours était organisé avec toutes sortes de tracasseries administratives et des complications sur le plan pratique qui faisaient que seuls les candidats les plus motivés réussissaient à se présenter au concours. Et de la motivation, il en fallait, puisqu'environ un candidat sur 15 seulement était pris. Donc pour que ces candidats puissent réussir, il fallait non seulement qu'ils soient bons, qu'ils réussissent les minima des épreuves, mais aussi qu'ils soient meilleurs que les autres. Et ce jour-là, moi personnellement, je devais chronométrer la course des 1000 mètres. Et comme il y avait environ 1700 candidats, donc c'est impossible de faire partir 1700 candidats d'un coup, donc ils étaient groupés par environ 10 coureurs. Et moi, toute la journée, je devais donc les chronométrer. Et puis, après avoir chronométré plusieurs courses, j'ai été surpris par l'homogénéité qu'il y avait entre chaque groupe de coureurs. Certains groupes étaient exclusivement composés de bons coureurs, et puis d'autres groupes exclusivement composés de mauvais coureurs. Et ce qui était très étonnant, c'est qu'en fait, les coureurs n'avaient pas été regroupés par niveau, mais par ordre alphabétique. Alors à moins de croire que les B vont courir mieux que les C et moins bien que les E, il y avait quelque chose d'étonnant dans tout cela. Alors j'avais toute la journée, alors j'étais essayé de comprendre là, qu'est-ce qui se passait. Et voilà ce que j'ai remarqué. Si dans le groupe, il y avait un bon coureur qui partait en tête dès le début de la course, tous les autres le prenaient comme modèle et essayaient de régler leur course sur lui. Alors tout le monde ne parvenait pas à le rattraper, mais en tout cas, tout le monde tentait de le suivre, et comme tous les coureurs étaient motivés et sportifs, au bout du compte, ils faisaient tous une bonne course. Tous réussissaient à franchir la ligne avant le temps éliminatoire. Mais si aucun coureur ne prenait la tête dès le début, ne se détachait des autres spontanément, alors l'ensemble des coureurs faisaient leur course ensemble, en s'observant les uns les autres. Et c'est seulement à la fin, près de la ligne d'arrivée, que là, ils accéléraient de façon à être le premier, ou en tout cas, d'être parmi les tout premiers. Et ceux qui réussissaient comme cela à être dans les tout premiers étaient contents d'eux-mêmes. Ils avaient battu les autres. Mais moi, qui avais le chronomètre à la main, j'avais de la tristesse pour eux, parce que je savais que leur joie allait justement se changer en tristesse, parce que, au bout du compte, ils allaient être déçus. Aucun d'eux, pas un seul, n'avait réussi à atteindre les minima, ce qui signifiait que tous allaient être éliminés. Et quand on voit les efforts qu'ils avaient faits simplement pour aller au concours, ça allait être quelque chose de difficile pour eux. Et d'autant plus qu'ils étaient convaincus d'avoir fait une bonne course. Pour eux, être moins pire, en tout cas, moins pire que les autres, ne suffisait pas. Et c'était vraiment dommage, parce que la plupart d'entre eux avaient les capacités pour être bien meilleurs, pour être, en tout cas, être arrivés bien avant les minima. Et si jamais il y avait eu dans leur groupe un bon coureur, ils l'auraient suivi, ils auraient réussi. Et en l'absence de bons coureurs, si seulement ils avaient réglé leur course non pas sur les autres, mais sur le barème, sur le référentiel qu'ils avaient reçu, ils se seraient rendus compte qu'ils ne couraient pas assez vite, ils auraient accéléré. Malgré leur grande motivation, malgré leur capacité réelle, ils ne réaliseraient pas leurs rêves. Pas parce qu'ils étaient incapables de le faire, mais parce qu'ils avaient suivi de mauvais modèles. Et cette journée illustrait pour moi l'importance que nous avons de suivre de bons modèles. et pas seulement de bons modèles dans une course sportive, mais de bons modèles dans la vie. Suivre et imiter de bons modèles nous permet de progresser et de devenir meilleur. Mais suivre ou imiter de mauvais modèles ne nous conduit nulle part de bon. Quels sont les modèles que nous suivons? Qui cherchons-nous à imiter? Parce que nous sommes tous influencés par des modèles que nous imitons plus ou moins consciemment. Je ne sais pas si vous vous souvenez, lorsque Le Grand Bleu est sorti, donc, qui raconte les exploits d'un plongeur en apnée, eh bien, dans les mois qui ont suivi, les directeurs des piscines et les municipalités ont dû interdire de faire des apnées dans les piscines. Parce que trop de gens ont pris Jacques Mayol, le héros du film, comme modèle, et il y a eu plusieurs noyés dans les piscines l'été qui a suivi. Ce modèle était un modèle dangereux. Je suis, pour ma part, quand je vois tout ce que me rapportent mes enfants comme nouvelles de l'école, je suis très attristé de voir la violence et le mépris qu'il y a dans les écoles actuellement. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une rupture de génération entre mes enfants et moi, et que le monde dans lequel ils vivent n'est pas le même que le mien. Mais je suis également frappé quand je vois à la télévision, quand j'écoute à la radio les émissions qui sont destinées aux jeunes et aux adolescents, de voir à quel point il y a de la violence et du mépris dans tout cela. Même Calimero, quand j'étais enfant, Calimero, c'était un gentil petit personnage. Il disait, c'est vraiment trop injuste. Le Calimero moderne, quand on lui fait une crasse, qu'est-ce qu'il fait? Il se venge. C'est pas le même personnage. Toujours, si jamais voilà, vous pensez Calimero, c'est bon, Calimero, c'est bon pour toi, regardez un petit peu si c'est un récent ou pas et prenez la peine de le regarder avec vos enfants, parce que vous verrez que c'est pas ce que vous avez en tête, peut-être. Mais en tout cas, la question que je me pose, c'est comment ne pas voir un rapport entre la violence et le mépris qu'il y a actuellement dans les écoles et la violence et le mépris qu'il y a dans toutes les émissions destinées aux jeunes. Alors, heureusement, il n'y a pas que des modèles négatifs dans la vie. Il y a aussi de bons modèles. En 1940, un couple, c'était André et Magda Trocmé, ont décidé de cacher des juifs chez eux. André était le pasteur d'une petite église au Chambon-sur-Lignon, une petite ville du Massif central. Et plusieurs personnes les ont suivis et les ont pris comme modèles. Ils ont également hébergé des juifs. Ces mêmes personnes ont également été imitées. Et au bout du compte, on estime que près de 5000 juifs ont eu la vie sauve parce qu'ils ont été hébergés par des gens de la région de Chambon-sur-Lignon. 5000 alors que la ville au complet ne comptait que 3000 habitants. Et ça a duré 4 ans. Et tout cela a démarré à partir d'une action individuelle. Un engagement chrétien qui a suivi de modèles et qui a été imité par une, par 10, par des centaines de personnes qui sont devenues, pour leur part, des manifestations de l'amour de Christ pour des milliers d'autres personnes. Mais il n'est pas toujours très aisé de suivre des modèles, de suivre de bons modèles. Alors, quels conseils Dieu nous donne-t-il, au travers de sa parole, pour nous aider à suivre de bons modèles, pour nous aider à ressembler à Christ? Christ étant le modèle parfait, celui à qui nous sommes destinés à ressembler. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans la première lettre aux Thessaloniciens, au chapitre 1. Première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 1. Cette lettre a été écrite par l'apôtre Paul environ à l'an 50 aux chrétiens de la ville de Thessalonique qui est actuellement en Grèce. Les deux versets qui nous intéresseront sont les versets 6 et les versets 7. Vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. La première chose que nous pouvons relever au travers de ce texte, c'est que nous ne pourrons ressembler au Seigneur que si, au préalable, nous avons reçu personnellement la parole de Dieu. « Vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole. » Et recevoir la parole, ce n'est pas simplement l'entendre ou la connaître, c'est l'accepter, c'est se l'approprier. C'est le sens du mot grec qui est utilisé. C'est pour, peut-être que dans vos traductions, vous avez écrit à la place « accueillir la parole », parce que c'est un sens de ce mot. Pour devenir les imitateurs du Seigneur, il nous faut recevoir, accueillir la parole de Dieu. Et la parole dans son ensemble, pas seulement les textes qui nous plaisent. Hein. On a toujours des facilités à recevoir certains textes plus que d'autres. À recevoir également les textes qui nous paraissent raisonnables par rapport à d'autres. Mais c'est l'ensemble de la parole que nous devons recevoir. Et on ne ressemblera pas à Paul ni au Seigneur si jamais nous refusons certains enseignements de la parole de Dieu. Nous devons accueillir toute la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous communique la pensée de Dieu. Ce qui est bon ou ce qui est mauvais, ce qui est juste ou ce qui est faux. Elle nous enseigne comment nous devons vivre et comment nous devons honorer le Seigneur. Parce que vouloir ressembler à Christ, c'est bien. Vouloir faire ce qui est bon et accomplir ce qui est juste, honorer le Seigneur, est une bonne chose. Mais si jamais nous n'accueillons pas la parole, nous n'y parviendrons pas. Parce que nous avons besoin de la parole de Dieu, parce que notre intelligence est limitée et que nos connaissances ne sont pas toujours exhaustives. Et sans la parole de Dieu, malheureusement, nous serions peut-être tentés de suivre ou d'imiter des personnes qui, au bout du compte, s'avèrent être de mauvais modèles. Le mois dernier, j'ai eu l'occasion d'entendre une personne qui militait pour la défense de trois valeurs. L'amour, la liberté et le respect. Alors ça, ce sont trois valeurs chrétiennes. C'est l'amour, la liberté et le respect. En tant que chrétien, j'espère que nous sommes motivés pour nous engager dans une vie qui respecte ces trois valeurs. Mais la personne que j'entendais avait tout un argumentaire destiné à prouver que la fidélité sexuelle entre les conjoints s'opposait à l'amour, à la liberté et au respect. Et bien sûr, au nom de ces trois valeurs, elle militait pour une sexualité totalement libre. C'est intéressant parce que cette personne savait présenter son point de vue et les arguments qu'elle mettait en avant ne manquaient pas de pertinence. Et comme ça, elle invitait chacun à vivre comme elle. Et séduit par son discours, séduit par les valeurs que cette personne défendait, l'amour, la liberté et le respect, certains ont peut-être été tentés de la suivre. Si cette personne ou elle, parce que des discours comme ça, on peut en entendre toutes les semaines, à la télé, à la radio, et en particulier pour les émissions qui sont destinées aux adolescents et aux préados. Et certains les ont peut-être imités, y compris des chrétiens. Mais pourtant, suivre cette personne serait une erreur, parce que bien que les valeurs que cette personne défend soient bonnes, bibliquement, ces valeurs sont justes. Cette personne est complètement dans l'erreur quant à l'application qu'elle fait de ces valeurs dans la sexualité. Et comment peut-on savoir qu'elle est dans l'erreur ? Parce que la Bible, qui reflète la pensée de Dieu, nous le dit. Malheureusement, bien des chrétiens ont, un jour ou l'autre, croisé des personnes qu'elles ont trouvées formidables. Vous savez, ce genre de personnes, vous dites « Waouh, oh, c'est super ce qu'elle vit !» Des personnes qui semblaient défendre des valeurs chrétiennes, alors dans leur vie personnelle ou en politique, dans le travail, dans les arts, dans l'Église même. Et puis, des personnes comme ça, on les suit avec enthousiasme. Mais un jour, parfois après des années, on peut réaliser que ces personnes ont fait fausse route. Et ceux qui les ont suivis réalisent qu'ils se sont trompés, qu'ils ont été trompés. Et que malgré eux, malgré leur bonne volonté de départ, ils se sont petit à petit éloignés de la volonté de Dieu. Et ces chrétiens, et j'ai eu l'occasion de discuter il y a une fois avec une dame comme ça, qui avait fait partie de la secte des enfants de Dieu, extérieurement une église évangélique, maintenant il s'appelle La Famille, qui avait cinq enfants de cinq pères inconnus, parce que dans son église, en tout cas au nom de la liberté et de l'évangélisation, la prostitution des femmes faisait partie de ce qui était mis en avant pour attirer des gens dans l'église. Et cette personne, son témoignage était terrible. Et quand elle a réalisé en fait où elle en était, son questionnement c'était: mais comment est-ce que j'ai pu en arriver jusque-là? Comment est-ce que j'ai pu accepter de faire tous ces compromis? Comment est-ce que j'ai pu connaître tous ces péchés? Alors, heureusement pour elle et heureusement pour tous les chrétiens, pour nous, lorsque nous faisons des erreurs, si nous demandons pardon pour nos péchés, Dieu nous pardonne, Dieu oublie notre péché. Mais les conséquences de notre péché, les conséquences pour notre famille ou pour nous-mêmes, eh bien ça, des fois, c'est des valises qui sont bien lourdes à porter. Et au bout du compte, cette personne se disait: mais quel dommage, quel gâchis. Cette personne et tous les chrétiens comme ça qui ont suivi des gens au départ qui semblaient de bons modèles, eh bien, si jamais ils avaient mieux connu la parole de Dieu, ils se seraient rendus compte beaucoup plus tôt qu'ils avaient sous les yeux un modèle qui les attirait, ça c'est vrai, mais un mauvais modèle, un modèle qu'il ne fallait pas suivre. Vous savez, c'est un peu comme les coureurs dont je racontais l'histoire au tout début. S'ils avaient suivi un bon modèle, les choses auraient été différentes, mais surtout s'ils avaient eu en tête les barèmes qui étaient exigés, ils auraient réalisé que les coureurs qu'ils étaient en train de suivre n'avaient pas le bon rythme, qu'il fallait se détacher d'eux et faire leur course seuls. Et ce qui est vraiment regrettable, c'est que ces barèmes, ils les avaient tous reçus par la poste. Aucun des candidats n'a été pris au dépourvu. Ils les avaient reçus par la poste, mais ils ne les avaient pas reçus dans leur tête. Eh bien, nous, en tant que chrétiens, parfois, c'est un peu la même chose. On a tous reçu une Bible. Une Bible qui est censée nous guider dans notre course avec Dieu. Mais cette Bible, nous ne devons pas simplement la recevoir dans nos mains, la mettre sur une bibliothèque chez nous. Nous devons la recevoir dans notre cœur, dans notre tête. Nous devons l'ouvrir, nous devons la lire, nous devons nous en imprégner. C'est comme cela que nous disposerons d'un guide, d'un référentiel qui nous permettra de suivre Christ et de ne pas faire la course en suivant un mauvais modèle. Et nous sommes particulièrement vulnérables et exposés à suivre de mauvais modèles et à nous retrouver ainsi loin de la volonté de Dieu si nous n'avons pas accueilli véritablement la parole de Dieu. La première chose à faire pour imiter Christ, c'est donc de recevoir la parole de Dieu. En recevant la parole de Dieu, nous sommes en mesure de suivre, d'imiter le Seigneur. Et ce qui est curieux dans notre passage, c'est que Paul ne met pas l'imitation du Seigneur en premier. Au verset 6, il écrit: « Vous avez été mes imitateurs et ceux du Christ. » Paul n'aurait-il pas dû se contenter de mettre seulement le Seigneur en avant? N'aurait-il pas dû écrire « Vous avez été les imitateurs du Seigneur ». Non seulement Paul se cite en exemple aux côtés du Seigneur, mais il se place avant le Seigneur. « Vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur. » Alors, connaissant Paul, on ne peut pas soupçonner qu'il se considère comme plus important que le Seigneur, ni même qu'il se considère comme étant sur le même plan que le Seigneur. Si Paul se met en premier, c'est parce que c'est d'abord au travers de la vie de Paul que les Thessaloniciens ont discerné la personne de Jésus. Et c'est généralement le cas pour nous aussi. Très rares sont les chrétiens qui viennent à Christ directement, sans être passés par le témoignage de vie ou bien par le témoignage verbal d'un autre chrétien. En général, nous sommes d'abord interpellés, touchés par la vie d'un chrétien, que ce soit son amour, sa compassion, sa droiture, sa recherche de paix, son accueil. Et c'est seulement ensuite que nous discernons que ce qui nous a touchés profondément chez cette personne est en fait la manifestation, le reflet de la présence de Dieu dans le cœur, dans la vie de ce chrétien. C'est souvent au travers de la vie d'un frère ou d'une sœur que nous voyons comment Dieu se manifeste concrètement. Et nous avons besoin de voir des choses concrètes. Parce que parfois nous savons des vérités sur Dieu, nous savons quelle est la volonté de Dieu, mais nous ignorons comment faire pour les mettre en pratique. Nous savons que Dieu est amour, nous savons que Dieu est juste, mais cela ne reste parfois que des idées abstraites, des complexes théologiques, et c'est seulement en voyant des frères et des sœurs vivre que nous comprenons, que nous voyons comment concrètement eux, ils mettent cela en pratique dans leur propre vie. Et cela nous encourage ou nous guide pour que nous-mêmes, nous puissions le mettre en pratique dans notre vie. Nous voyons ici l'intérêt que nous avons à développer de solides relations fraternelles. À ce que nous appelons notre communion fraternelle ne se limite pas à simplement quand nous nous voyons à l'église ou lors des réunions de semaine. Mais c'est en étant véritablement en relation, en voyant vivre nos frères et sœurs, que nous pouvons discerner concrètement comment se manifeste la présence de Dieu dans leur vie, afin que nous aussi, nous puissions les prendre comme modèle dans notre propre vie. Mais je ne veux pas non plus être trop idéaliste. Tout modèle a ses limites. Et un modèle ne sera jamais aussi parfait que l'original. Et quelle que soit la communion de nos frères et sœurs avec leur Seigneur, quelle que soit leur consécration, nous n'aurons jamais au travers d'eux qu'un aperçu imparfait de qui est véritablement Christ. Parce qu'ils sont pécheurs et que nous le sommes nous-mêmes, j'espère que vous le saviez, leur vie ne sera en jamais en tout point exemplaire. Tout n'est donc pas bon à imiter chez nos frères et sœurs. Jésus est le seul modèle que nous pouvons suivre parfaitement, entièrement, parce que lui seul est parfait et que lui seul n'a jamais péché. Nous devons donc nous inspirer de ce qu'il y a de bon chez nos frères et sœurs, et seulement de ce qu'il y a de bon. Et sur ce qu'il y a de bon, là nous cherchons à les imiter, mais nous pouvons même chercher à être encore meilleur qu'eux, à faire mieux qu'eux, de façon à ressembler toujours plus à Christ. Ce n'est donc pas à un frère ou à une sœur que nous devons chercher à ressembler, mais à Jésus. Mais pour ressembler à Jésus, pour le suivre, il faut le connaître. Et comment savons-nous qui est Jésus ? Au travers de la parole de Dieu. Et nous revenons à nouveau à la nécessité de recevoir et d'accueillir la parole de Dieu. C'est au travers de la Bible que nous découvrons qui est vraiment Jésus, celui à qui nous sommes appelés à ressembler, celui que nous sommes appelés à imiter. Romains 8, 29 nous dit que Dieu nous a prédestinés à devenir conformes à l'image de Christ. Par son Saint-Esprit, Dieu agit en nous. Dieu régénère notre cœur, il renouvelle nos pensées, il transforme notre vie. Si, bien sûr, on le laisse agir, bien sûr. Et ce que Dieu fait en nous, fait également de nous des modèles pour nos frères et sœurs. C'est ce que dit Paul aux Thessaloniciens, au verset 7. « Vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants. Savez-vous que vous êtes des modèles pour vos frères et sœurs ?» Savez-vous que vous êtes des modèles de Christ pour moi ? Est-ce que vous savez ça ? Des modèles que j'ai envie de suivre, des modèles que j'ai envie d'imiter, parce qu'il y a en vous de belles choses qui reflètent la personne de Jésus. Vous êtes des modèles de Christ pour moi, comme vous êtes également des modèles de Christ pour d'autres, et peut-être que vous l'ignoriez. Vous l'ignorez peut-être parce que, humainement, on a tendance à considérer qu'il faut se mettre en avant pour être un modèle. Moi ici, je suis en avant, mais ce n'est pas ce qui fait de moi un modèle. On a tendance à considérer que pour être un modèle, il faut être brillant, il faut être exceptionnel, il faut être un joueur de l'équipe de France. Pas cette année, pas cette année. Qu'il faut être plus beau, plus fort que les autres. Et ça, c'est probablement vrai pour le monde, mais ce n'est pas vrai pour l'Église, ni dans l'Église. Parce que nous avons reçu, parce que tout chrétien a reçu l'Esprit de Dieu qui vit en lui, l'Esprit de Dieu nous rend sensibles. Il y a quelque chose en nous qui nous rend sensibles, non pas aux apparences extérieures, mais à tout ce qui manifeste le caractère de Dieu. Ce qui fait de vous des modèles, c'est lorsque le Saint-Esprit qui vit en vous se manifeste, et ce qui fait que cette manifestation de la présence de Christ est reconnue par d'autres frères et sœurs. Je vais vous raconter une anecdote, et pour ne mettre personne mal à l'aise, je ne sais pas si vous avez vu, là, j'essaye de ne pas trop regarder les gens, vous avez peut-être vu un changement de comportement. Donc voilà, si vous voyez que je regarde bizarrement, ce que je sais pas trop, il faut regarder. Et là, l'anecdote que je vais relater, volontairement, pour ne mettre personne mal à l'aise, je l'ai située en dehors de l'Église. Je ne sais pas si vous connaissez Henri Blocher. Henri Blocher est, selon moi, le plus grand théologien francophone vivant. Et je l'ai eu comme professeur. Et Henri Blocher est un modèle de Christ pour moi. Alors c'est sûr que j'aimerais bien avoir autant que connaissance que lui, on va même dire 10%, que j'aimerais être capable de partager cela avec d'autres aussi facilement que lui, mais ce n'est pas sa connaissance qui fait de moi, enfin qui fait de lui un modèle pour moi. Voilà ce qui s'est passé un jour. Chaque année à Paris, il y a ce qu'on appelle le centre évangélique. Alors, c'est une grosse manifestation évangélique qui regroupe essentiellement des responsables chrétiens, des pasteurs, des anciens, des missionnaires, des directeurs d'œuvres de toutes sortes. Et chaque année, les étudiants de l'Institut biblique de Nogent, dont je faisais partie, sont impliqués dans l'organisation de toute cette rencontre. Et moi, on m'avait chargé, mon travail, c'était de placer les gens à table, parce qu'à un moment, il y a un grand réfectoire, et il n'y a pas assez de place pour tout le monde, donc il faut faire des roulements. Et pour que les roulements se passent bien, l'idée c'est une table est remplie, quand la table est remplie, on sert. Donc moi, mon rôle, c'était de placer les gens à table. Et on m'avait dit, il n'y a aucune table réservée. Personne ne se met là où il veut. Si les gens veulent être ensemble, ils arrivent ensemble. Mais il faut placer les gens à table. Il y a une seule table qui est réservée, c'est la table du comité directeur, qui est là-bas, il y avait déjà quelques personnes. Et il ne manque qu'une personne, le directeur. Puis on m'avait dit son nom, puis vous savez, des fois vous êtes un peu bête, hein, vous acceptez un service. Oui, d'accord, d'accord. Et puis moi, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je n'ai pas la mémoire des noms. Et au bout de 30 secondes, j'ai oublié le nom de la personne que je devais placer. Et puis des gens arrivent, et puis moi je les place. Et on leur dit, non, non, il faut vous mettre là-bas. Et j'étais assez déçu parce que les gens, mais qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils se mettaient à une table, et puis après ils voyaient qu'à un autre endroit, il y avait quelques-uns de leurs amis, des gens qu'ils ne voient qu'une fois par an, donc... Ils se déplaçaient, ce qui fait qu'il y avait des trous au niveau des tables. Donc après, les tables n'étaient pas servies. Bon, je me dis, je vais être plus convaincant. Et puis là, se présente un monsieur. Et puis il me dit, je suis attendu. Non, 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 non. On m'a dit de placer les gens à table. Il faut remplir la table. Je vais même désigner la table. Il y a de la place là-bas, il faut aller vous asseoir là-bas. Bon, et puis ce monsieur va s'asseoir. Et puis là, je vois deux, trois personnes de la table de direction qui se lèvent, puis qui vont chercher la personne qui venait s'asseoir. Et en fait, c'était Henri Blocher. C'était mon premier contact avec Henri Blocher. Et cette histoire m'a marqué, non pas parce que j'ai fait une boulette, mais parce qu'au travers de cet incident, j'ai vu l'œuvre de Christ dans la vie de cet homme. Et c'est pas grand-chose, hein, mais je peux vous garantir qu'après, en tant qu'enseignant, eh bien, vous ne prenez pas les choses de la même manière. Parce que vous savez que ce qu'il dit, il le vit. Et vraiment, j'avais été marqué, parce que moi, j'étais qu'un petit étudiant de première année, lui, un théologien internationalement réputé. Moi, j'étais, on peut dire, un simple pion dans cette grosse organisation, et lui, il en était la pièce maîtresse. Et en tant que président, bien sûr, il n'avait pas tout organisé, il avait délégué l'organisation à d'autres personnes. Et moi, cette organisation m'avait confié une responsabilité qui était celle de placer les gens. Et lui, quand il est arrivé, j'avais reçu une mission, il s'est volontairement mis dans la situation, d'une situation de soumission. Il s'est soumis volontairement à l'autorité qui m'avait été déléguée. Et ça, pour moi, c'était un modèle de Christ. Je me suis dit, mais moi, dans ma vie, je veux avoir la même humilité, la même soumission volontaire que lui. Alors, je ne lui ai jamais dit, probablement qu'il n'en sait rien, qu'il a même dû oublier complètement cet incident. Mais pourtant, pour moi, au travers de cet incident, il est devenu un modèle. Eh bien, dites-vous que vous aussi, probablement sans le savoir, des petits incidents ont fait de vous des modèles pour moi, mais aussi des modèles pour d'autres dans l'Église. Par exemple, des fois lorsque je réalise, vous savez, il ne faut pas croire, hein, même les choses, il y a des tas de choses qui se passent, on va pas forcément dire qu'on a vu des choses, mais au bout du compte, il y a pas mal de choses quand même qu'on voit. Et des fois, je réalise, tiens, que telle personne a pris la peine de ranger, de nettoyer, de réparer, de décorer, hein, quelque chose, en toute discrétion. C'est des fois, ça arrive, oh mince, j'ai oublié de ranger ça. Puis, ah, oh, vous arrivez, oh, dis donc, ça a été fait, c'est super. Eh bien, n'empêche, quand je vois la qualité de ce service, je me dis, voilà à quel serviteur je veux ressembler. Lorsque je sais que telle personne a été blessée par moi, et que pourtant, cette personne continue à me manifester de l'amour et de la grâce, je me dis, quel modèle de grâce et de pardon à cette personne. Voilà à quel chrétien je veux ressembler. Lorsque je découvre par hasard que quelqu'un a été visité ou a été soutenu par une autre personne, quelqu'un qui en avait besoin, qui a eu de l'aide, je me dis, mais quel amour fraternel. Voilà comment je voudrais aimer. Et je pourrais citer ainsi des centaines d'exemples où ce que vous êtes ou ce que vous faites est un modèle de Dieu pour moi, mais sûrement un modèle aussi pour les autres. Et la grande majorité des fois, ceux qui ont été des modèles n'en ont même pas conscience. Ils n'en ont pas conscience parce que s'ils le font, ce n'est pas pour se mettre en avant, ce n'est pas pour être un modèle, mais ils le font tout simplement parce que c'est la manifestation de l'œuvre de Dieu en eux. Je ne sais pas trop comment le dire, j'ai failli dire parce qu'ils le font naturellement, mais je serais plutôt tenté de dire ils le font spirituellement ou au travers de leur nouvelle nature. Ils le font comme pour eux c'est tout naturel de ranger, d'aimer, de prendre soin de quelqu'un. Lorsque nous marchons avec Christ, la personne de Christ se manifeste au travers de nous. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit peut se servir de notre vie pour interpeller, pour encourager ou conduire d'autres personnes à lui, sans même que nous en ayons conscience. Mais pourtant, c'est une réalité. Toute personne qui se laisse transformer par Christ ressemble de plus en plus à Christ et devient ainsi un modèle qui encourage et qui conduit tous ceux qui aiment Jésus. Alors des fois, vous savez, nous, on peut culpabiliser parce qu'on se dit « Ah, on a rencontré telle personne, j'ai pas trouvé les mots juste pour lui parler de Dieu. » Ou bien des fois, nous n'osons pas annoncer l'Évangile. Mais nous devons nous souvenir qu'il n'y a pas que les mots qui parlent de Dieu. J'ai paraphrasé une citation de Guy Gilbert. Je ne sais pas si vous voyez qui est Guy Gilbert, c'est un prêtre qui a vraiment un ministère auprès des exclus, des marginaux. Pendant longtemps, on l'a appelé le prêtre des loubards. Il a un blouson noir, des pins, des cheveux un peu longs. Alors bon, à un moment, il a eu un look complètement décalé, parce qu'en dehors de ce prêtre, des blousons noirs, il n'y en avait presque plus. Et il est ce qu'il est. Et il a surtout aussi une façon très, très rude de s'exprimer. C'est pour ça que j'ai paraphrasé ce qu'il a dit. Je ne vais pas le dire avec ses mots. Mais il a dit quelque chose que j'ai trouvé de très, très juste. Il a dit « Ce n'est pas en jetant l'Évangile à la face des gens qu'on les convertit, mais en vivant de telle sorte qu'en nous voyant vivre, les gens se disent qu'il est impossible que Dieu n'existe pas. » Notre vie, lorsque nous reflétons Christ, est un témoignage vivant, concret, qui invite chacun à suivre Christ. En conclusion générale, nous pouvons simplement relever à quel point il y a des interactions fortes entre la parole de Dieu, nous-mêmes et nos frères et sœurs. C'est au travers de la parole de Dieu que nous comprenons qui est Dieu, quelle est la pensée de Dieu et quelle est la volonté de Dieu. Mais c'est au travers également du modèle que représentent nos frères et sœurs que nous voyons concrètement comment la parole de Dieu est mise en pratique. Au travers d'eux, nous avons sous les yeux des modèles qui nous encouragent à aller de l'avant et à encourager Christ, à ressembler à Christ, pardon. Et tout comme nous-mêmes, dans certains aspects de notre vie, nous reflétons la présence de Dieu dans notre vie, dans notre cœur. Et en cela, et généralement sans le savoir, nous sommes des modèles qui encourageons nos frères et sœurs à ressembler à Christ. Nous sommes donc tous à la fois des modèles et des imitateurs. Il n'y a pas d'un côté les modèles, d'un côté les imitateurs. Mais il y a des frères et sœurs qui, au travers de l'Esprit de Dieu, par son Esprit, sont transformés, régénérés par le Seigneur. Le Seigneur qui restaure en nous son image. Et ça, c'est l'Église. Une communauté de gens imparfaits, mais des gens qui aiment Jésus, qui s'aiment et qui veulent grandir ensemble de façon à ressembler de plus en plus à leur Seigneur. Je vous invite à prier. Seigneur Dieu vivant, nous savons deux choses. Nous savons qu'un jour nous serons complètement régénérés, transformés. Nous te verrons non seulement tel que tu es, mais tu auras terminé ton œuvre régénératrice en nous. Nous te remercions parce que ça, c'est la plus belle espérance de vie que nous pouvons avoir. Mais nous savons également, Seigneur, que nous sommes encore des gens imparfaits, des pécheurs, que parfois nous nous trompons. Mais ce que nous te demandons, Seigneur, c'est qu'au travers de ton Saint-Esprit, tu puisses nous conduire, tu puisses nous remplir de ta présence, de ta personne, pour que nous puissions de plus en plus refléter ce que tu es, le manifester dans notre vie, mais que tu nous donnes également ce discernement pour voir chez nos frères et sœurs toutes les belles choses que tu as fait en eux, et que nous puissions ainsi, Seigneur, être tentés de les suivre dans le bon sens du terme. Donne-nous, Seigneur, en tant que communauté, en tant qu'Église, de pouvoir nous encourager les uns les autres. Merci, Seigneur, car c'est toi qui pourvois cela. Merci, car nous sommes un corps vivant. Ce que nous te prions, Seigneur, c'est que vraiment, tu fasses de nous que ce corps soit de plus en plus beau, qu'il puisse te refléter de plus en plus, et qu'ainsi, mutuellement, nous puissions être les instruments de ta grâce auprès de tous ceux qui nous entourent, des lumières qui éclairent sur ceux qui sont dans les ténèbres, une chaleur qui réchauffe, et que nous puissions ainsi, Seigneur, te glorifier individuellement, mais aussi en tant qu'Église. Amen.